Allons parler communication et politique avec Marie-Ève Doyon, chroniqueuse au Journal de Québec et Journal de Montréal et fondatrice de Média Relations Publiques. Marie-Ève, comment vas-tu?
Ça va bien, et vous?
Ben oui, bon lundi à toi. 16 degrés, ça fait du bien, ça. C'est bon pour le moral de tout le monde, finalement.
C'est triste, hein, d'être enfermé dans des bureaux quand il fait beau comme ça.
Mais surtout, au moins, on a une belle vue sur la Beauce, présentement.
Ah, c'est bien, ça.
Donc, c'est une histoire d'amour qui se continue. Deuxième tête-à-tête entre messieurs Legault et Trudeau. Commencez à croire que ça va être un rendez-vous dès lundi, là. Annonce politique?
Bien, en fait, c'est une histoire d'amour, mais à laquelle M. Trudeau a dû porter un peu de défense aujourd'hui quand on lui a demandé si finalement il est en train de se rabibocher avec M. Legault. On se donnait encore du prénom, hein, du François et du Justin, mm-hmm. Pour avoir l'air un peu copain comme cochon. Mais Justin qui répondait que, évidemment, les gouvernements ne voyaient pas toujours les choses du même œil, mais que quand les Québécois en avaient besoin et les Canadiens aussi, on était capable de démontrer, et la pandémie nous l'a démontré, que les partis politiques peuvent travailler ensemble. Est-ce que ce message-là s'est aussi un peu soufflé dans sa propre trompette si jamais il ne va pas en élection, puis il va pouvoir dire, mais on l'a démontré, on peut vivre avec un gouvernement minoritaire, il n'y a pas d'obligation d'aller en élection. La décision ne semble pas prise, même si tout le monde pousse dans le sens d'un déclenchement hâtif ce printemps, peut-être au mois de mai pour aller aux urnes en juin.
Parce qu'on s'est lancé quand même une coupe de pointe là, durant la pandémie. On n'a qu'à penser au CHSLD quand l'armée est intervenue. Bon, M. Trudeau voulait dire qu'on gérait un peu moins bien les CHSLD ici, mais dans le fond, on veut avoir de l'argent. On peut s'attendre peut-être à d'autres annonces là, d'ici la prochaine campagne électorale.
C'est certain que le rythme des annonces va s'accélérer. Il y a deux raisons pour ça. Évidemment, c'est le fait que pendant la pandémie, c'était très difficile de faire des événements médiatiques avec un beau visuel alors qu'on ne pouvait même pas rentrer dans les entreprises. La lumière était fermée puis il n'y avait personne qui allait là. Alors que maintenant, bien, on recommence à avoir un petit peu plus de mouvement. On veut donner l'espoir que la vaccination va relancer l'économie qui est sur le respirateur artificiel des aides gouvernementales en ce moment. Puis, on veut préparer une élection afin que les libéraux, qui seront ceux qui devraient normalement être les mieux placés hein, au début d'une campagne électorale parce qu'ils risquent de provoquer un peu l'élection, bien, les libéraux veulent se donner toutes les chances d'avoir brillé le plus possible avant de déclencher.
Donc, si on revient à l'annonce d'aujourd'hui, on a annoncé 826 millions, l'Internet haute vitesse. On se souviendra qu'en 2003, il y a 18 ans, c'était Jean Charest qui promettait en campagne électorale de brancher tous les Québécois avec l'Internet. On est un peu loin de réaliser cette promesse-là. Est-ce que c'est réalisable là, pour octobre 2022?
Ben moi, je n'y crois pas simplement parce que j'ai déjà travaillé sur des dossiers d'accélération de l'accès à Internet. Je pense qu'il y a beaucoup de bonne volonté. Il y a maintenant des pénalités qui sont annoncées pour les fournisseurs de services qui ne respecteraient pas les engagements à leur contrat. Le gouvernement du Québec a beaucoup passé par son contrat gouvernemental global de traitement des données. Là, il y a toujours un fournisseur après un appel de service qui a la responsabilité du transfert des données, notamment dans les établissements de santé. Puis là, on ajoute à ça, bien, pendant que vous êtes là puis que vous passez le gros câble, bien, nous, on va se brancher sur votre système puis on va donner l'Internet un peu partout. Mais force est d'admettre que ça n'a pas été un succès sur toute la ligne et les gens qui n'ont pas Internet haute vitesse à la maison avec une performance de pointe ne sont pas tous des gens qui vivent à Pouvognitouk puis à Coudjouac. Il y a des gens qui vivent pas si loin dans la Beauce. Et l'Internet est très difficile à avoir, même l'Internet, la LTE, la 3G, la 4G, c'est sans avoir le câble à la maison, puis c'est pas toujours performant. Alors moi, je n'y crois pas.
À quoi on s'est buté dans les dernières années? On en parle depuis 2003 assez intensément. Est-ce que c'est une mauvaise volonté, si on veut, des compagnies qui fournissent Internet, voire aussi cellulaire, ou c'est le gouvernement qui n'a pas assez de temps d'attacher toutes les ficelles pour mettre un programme en place et que ça fonctionne une fois pour toutes?
Il y a un peu des deux. Il y a aussi le fait que la plupart de ces programmes-là sont des programmes qui sont faits en collaboration avec des municipalités. Quand on arrive avec des toutes petites municipalités, bien, le financement est plus difficile à avoir parce qu'il n'y a pas assez de personnes pour que ça vaille la peine pour un fournisseur de services de passer sa fibre optique ou son filage. Donc, le gouvernement paye un tiers, le gouvernement provincial, un tiers, le gouvernement fédéral. Des fois, c'est un petit peu plus que ça pour venir en aide aux petites municipalités. Mais s'il fallait payer un tiers de, je sais pas, au moins 25 km de filage souterrain haute vitesse en fibre optique pour aller alimenter 126 foyers, ben, les municipalités sont pas capables de taxer assez pour aller chercher l'argent nécessaire pour faire ça.
On reste, bon, campagne électorale qui s'annonce à l'horizon plus tôt que tard, on va se le dire. C'était le Congrès conservateur en fin de semaine. Erin O'Toole devait donner bonne impression. Ta première impression sur sa prestation en fin de semaine au Congrès?
Caucus divisé. Je pense que c'est ce que tout le monde remarque ce matin,
fait,
le chef a l'air
d'aller dans une direction, mais c'est pas forcément la direction que les membres du parti veulent aller, si on comprend bien.
En fait, ce qu'Erin O'Toole a dit d'emblée, c'est qu'il ne voulait pas partir en campagne électorale avec 338 députés qui n'auraient pas une réponse ferme sur l'existence des changements climatiques. Et c'était le point faible des conservateurs à la dernière campagne, en plus des dossiers sur l'avortement. Et là, il nous arrive avec cette affirmation en ouverture de congrès. Et le lendemain, une proposition très, très mièvre, très délicate, parle de l'affirmation de l'existence des changements climatiques, une proposition qui venait du Québec. La proposition disait tout simplement « les changements climatiques sont réels, le Parti conservateur a la volonté d'agir ». On s'entend que ça n'engage personne à rien, là. Et les conservateurs, principalement de l'Ouest, ont rejeté d'emblée cette affirmation. Alors, le chef dit une chose, le caucus dit l'inverse, ou les militants disent l'inverse. Ça va être très difficile pour Erin O'Toole de se présenter, cogner à votre porte ou envoyer son candidat cogner à votre porte cette année, au Québec, entre autres, pour dire « Oui, bonjour, nous venons vous présenter notre programme. Oui, puis est-ce que ça existe, les changements climatiques? Oh, ben notre chef dit que oui. »
Ouais, parce qu'on peut s'attendre à ce que les libéraux et les autres partis d'opposition tapent sur ce clou-là, là, des changements. La dernière fois, c'était l'avortement. Là, on peut se mettre à taper sur ce clou-là.
Oui. Surtout dans la mesure où c'était pas une question qui devait être adoptée à la majorité. Dans une question comme celle-là, pour qu'elle fasse partie du programme électoral des conservateurs, on parle de double majorité. Donc, il y a plus de 50 % des votants et plus de 50 % des provinces. Et là, dans ce cas-là, ben ça fonctionne pas, étant donné que Saskatchewan, Manitoba, Alberta, dans l'Ouest canadien, la survie du modèle économique de l'Ouest dépend entièrement du pétrole. Et pour dire que le Parti conservateur va agir sur les changements climatiques, ce que ça sous-entend, c'est qu'on va taxer les entreprises qui polluent et on va finalement mettre en faillite toutes les entreprises qui produisent du pétrole.
Les conservateurs aiment pas ça, les taxer supplémentaires. Ils veulent trouver d'autres solutions.
Bien, deux choses. Un, ils n'aiment pas taxer et deux, ils n'aiment pas nuire à la base profonde de leur électorat qui se trouve dans l'Ouest canadien ou dans les provinces du centre, là. Mm-hmm. Alors, ces deux axes-là font que parler des changements climatiques, ça devient extrêmement difficile.
Mais c'est quoi le futur pour le parti actuel conservateur? On sait qu'ils vont avoir besoin d'avoir plus de sièges au Québec s'ils veulent espérer, un, être le gouvernement et deux, d'avoir une majorité. Si un parti est à ce point divisé sur des questions quand même fondamentales qu'aujourd'hui, en 2021, on devrait être capable de répondre assez facilement. C'est quoi l'avenir pour le Parti conservateur?
Bien, Erin O'Toole a le dur fardeau d'être obligé et le lourd fardeau de devoir unifier son parti puisque les conservateurs ont subi deux défaites électorales consécutives après la défaite de Stephen Harper et celle d'Andrew Scheer. Donc, perdre à nouveau, ça vient faire encore plus mal à la base qui va se chercher une nouvelle avenue. Est-ce que les conservateurs à ce moment-là qui sont plus à droite vont vouloir se tourner vers un Maxime Bernier ou vers un nouveau parti qui pourrait émerger? On se souvient que le Parti conservateur a eu des chefs comme Brian Mulroney qui étaient beaucoup plus progressistes, mais les conditions n'étaient pas les mêmes qu'elles sont aujourd'hui avec tout ce qu'on connaît de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba. Est-ce qu'il va falloir qu'un nouveau parti naisse pour représenter ces personnes? Mm-hmm. Mais ça va être difficile à ce moment-là de gagner une élection puisque, pour le faire, tu le mentionnais, Adam, gagner une élection au Canada, ça ne se fait pas sans le Québec. Et le Québec est très attaché à ses valeurs environnementales qui sont à la fois défendues par les libéraux et par le NPD et par le Bloc. Aller grappiller des votes chez tous ces partis ou même chez un seul, ça ne se fait pas sans affirmer clairement l'existence des changements climatiques et l'urgence d'agir en cette matière.
Dossier international, en terminant, l'histoire de nos deux Michael qui ont été jugés en Chine assez rapidement. Bon, on s'en doute qu'il y a une histoire politique en tout ça pour les passer aussi rapidement leur procès en Chine sans même donner le verdict, quoi que ce soit. Justin Trudeau et son gouvernement est pogné avec ça. On ne peut rien faire parce que c'est une histoire judiciaire, mais à quel point ça peut le nuire à M. Trudeau et son gouvernement?
Ben, c'est faux. Je pense que le gouvernement peut faire quelque chose, entre autres s'asseoir à nouveau avec les Américains pour la libération de Meng Wanzhou. Ensuite de ça, il faudra aussi que le gouvernement en tienne compte au moment de faire des affirmations comme ils ont fait aujourd'hui en réitérant qu'il y avait génocide contre les Ouïghours en Chine et qu'il y aurait des sanctions économiques. Là, on est un peu dans un jeu de... Les Anglais appellent ça un jeu de chicken. Là. Les Chinois mettent à procès des Canadiens pour des accusations qui sont plus ou moins prouvé et on le fait derrière des portes closes. On ne permet même pas aux ambassadeurs d'être présents, aux diplomates d'être présents pour représenter les Canadiens. Et l'objectif clair, là, c'est de faire des pressions pour la libération de Meng Wanzhou de Huawei parce que le Canada la détient à la demande des États-Unis. Alors là, ça va être une source de friction un petit peu. Là, c'est certain que Justin Trudeau et le président américain Biden vont se parler un peu plus. Puis Justin va dire, attends une minute, là, moi, je peux la mettre dans un avion avec un thème dans le front, puis elle ne reviendra pas. Qu'est-ce qu'on fait pour libérer mes deux Canadiens? D'un autre côté, bien, la Chambre des communes a présenté une motion disant qu'il y avait génocide. Tous les députés, tous les ministres du gouvernement Trudeau se sont absentés par hasard au moment du vote.
Par hasard, bien sûr.
Mais ils n'ont pas voté ni pour ni contre. Ils n'étaient juste pas là. Ils étaient aux abonnés absents, mais parce qu'on voulait pas irriter la Chine. Mais là, maintenant que la Chine a mis deux Canadiens à procès dans une manière aussi flagrante, là, le Canada veut des sanctions. Mais on est peut-être en train de courir après le cheval qui est sorti de la grange.
Merci beaucoup, Marie-Ève Doyon. On va voir si la semaine prochaine, jamais 203, si on va avoir une autre conférence de presse commune. Une autre petite annonce, peut-être, là, faire plaisir au Québec.
Ah oui, voilà.
Merci
à
toi. Bye-bye, c'était Marie-Ève Doyon, chroniqueuse au Journal de Québec et Journal de Montréal et fondatrice de Médias Relations Publiques.